L'accord de Bougival est un accord historique et non un texte de travail. C'est ce qu'ont annoncé hier les 9 députés Ensemble pour la République qui ont achevé leur voyage sur le territoire. Deux motions de censure déposées ces dernières heures, l'une par le Rassemblement National, la seconde par les Insoumis. L'exécutif prend ses menaces de censure très au sérieux et prépare les esprits à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. La Suisse a rendu hommage aux victimes de l'incendie du bar Constellation à Crans-Montana, l'incendie qui a fait 40 morts et 116 blessés. C'était pour la fête de la Saint-Sylvestre. Des manifestations pour le 13e jour de suite dans les villes d'Iran. Le peuple continue de descendre dans les rues pour réclamer le départ du régime des mollahs. Le sport et la finale du BNC Tennis Open cet après-midi sur les cours du Wentoro. Le métropolitain Arthur Géa rencontrera l'Autrichien Jurij Rodionov. Les premiers échanges à partir de 16h30. Et puis pas de répit pour l'haltérophilie pendant les vacances. La coupe de Dimbéa est organisée aujourd'hui. C'est à la halle Mimi Castex. Une trentaine d'athlètes sont en lice, parmi lesquels une quinzaine de jeunes. Bonjour, très bon week-end et soyez les bienvenus dans ce journal. Le bilan de la visite des députés Ensemble pour la République durant 5 jours. 9 députés ont découvert le territoire à l'invitation de Nicolas Metzdorf pour se rendre compte des réalités de la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes de mai 2024. Une visite dense, composée de séquences institutionnelles, économiques et sociales. Une démarche utile aux députés pour mieux appréhender les prochains textes qui seront votés sur le sujet calédonien à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce qu'indique le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf.
Pour moi, c'est une vraie victoire parce que vous savez, quand vous me voyez prendre le micro dans l'hémicycle et que je parle de la Nouvelle-Calédonie, forcément, les gens écoutent et puis soutiennent. Mais il y a quelque part une forme de solitude. Peu de personnes connaissent vraiment la Nouvelle-Calédonie. Et je sais que ces députés-là, la prochaine fois, quand je prendrai le micro, ils saisiront de quoi je parle, clairement. Ça peut être aussi des relais quand je suis pas là. Ce qui me marque, c'est que eux, ils considèrent que l'accord de Bougival est déjà une énorme concession des loyalistes. Et ça, ça fait plaisir à entendre. Enfin, il y a une forme de reconnaissance de nos efforts pour maintenir la paix et le développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus beau message qu'ils donnent, c'est que c'est désormais au gouvernement national, à l'État central, d'appliquer l'accord de Bougival et pas demander aux Calédoniens, encore une fois, des tergiversations alors qu'on a fait le taf.
Et le message des députés est clair, le travail ne fait que commencer, mais 2026 s'annonce comme une année essentielle. Pour eux, il est temps d'avancer sur la question de l'avenir institutionnel et sur l'accord de Bougival, qui est un document concret et non un brouillon, rappelle Guillaume Casbarian, député d'Eure-et-Loir.
Ce n'est pas un texte de travail, c'est un accord historique. D'ailleurs, ceux qui l'ont signé et tous les représentants de la République l'ont qualifié comme tel. Il y a quelques mois, quand ça a été signé, personne ne vous a dit c'est un brouillon. Ça doit être ratifié, ça doit s'exécuter, ça doit être opérationnellement très vite mis en place parce que c'est un accord. Et un accord, ben on ne le réouvre pas tous les 4 matins. On ne se dit pas chaque jour, bah tiens, attendez, il y a eu un accord historique, mais finalement, on va réouvrir toutes les discussions, repartir à zéro, reprocrastiner. Si les responsables politiques, où qu'ils soient, sont dans une logique de réouvrir tous les accords chaque jour, comment voulez-vous qu'il y ait de la stabilité institutionnelle dans le pays et comment voulez-vous que des investisseurs se disent « je vais aller investir en Nouvelle-Calédonie », sachant que demain, peut-être qu'ils vont me dire bah, « on va faire l'inverse de ce qu'on a dit la veille ». Si chaque jour, vous avez un doute sur la parole politique, et ce qui est présenté aujourd'hui comme un accord historique peut demain être présenté comme un brouillon ou un bac à sable qui peut être détruit par le moindre coup de vent ou la moindre vague, comment voulez-vous avoir confiance dans l'avenir ?
Les députés Ensemble pour la République ont également pris le temps de rencontrer les groupes politiques du territoire, à l'exception du FLNKS, qui n'a pas répondu aux sollicitations, situation que déplorait hier Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine.
Comment peut-on être un leader politique, un leader politique qui refuse de venir échanger avec des parlementaires qui auront à se prononcer sur l'avenir de son propre territoire ? Et la preuve en est, c'est que c'est la seule et unique famille politique qui a fait chaise vide. Je ne suis pas sûre que ce soit à la hauteur du moment.
Les 9 députés Ensemble pour la République qui ont quitté le territoire hier soir au terme donc d'une visite de 5 jours. Dans l'actualité ce midi également, cette évolution du dispositif de sécurisation à Saint-Louis. La mairie du Mont-d'Or a indiqué que dès aujourd'hui, les forces de l'ordre en place pour surveiller la RP1 sur ce secteur sensible a été modifiée. Il n'y a pas d'allègement des effectifs, mais un redéploiement des gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité de cet axe routier. Michael Juneski.
Oui, plus de postes de garde aux deux verrous, sud et nord de la RP1 à Saint-Louis, mais des militaires qui sont désormais en patrouille mobile pour continuer de veiller à la sécurité des automobilistes. Le maire du Mont-d'Or indique que cette décision a été prise en concertation entre la municipalité et les gendarmes. Une évolution donc du dispositif de sécurisation de la traversée de la route de Saint-Louis et non un allègement des moyens mis en place selon la mairie. Un redéploiement mis en œuvre depuis la nuit dernière. Les tentes et les installations temporaires qui étaient sur place ont été retirées. Si les postes physiques disparaissent au profit de postes mobiles, les effectifs demeurent inchangés selon la mairie et les gendarmes. Notez que le parti Génération Mont-d'Or a fait part d'un communiqué pour désapprouver cette décision, rappelant que la nuit dernière encore un nouveau fait de caillassage sur des gendarmes s'est produit dans ce secteur. Génération Mont-d'Or, par la voix de Nina Julier, qui déclare, je cite, « Dans l'attente d'un apaisement réel et de garanties concrètes pour les automobilistes, nous demandons que les verrous soient remis en place. » Fin de citation.
Au chapitre des faits divers, cette tentative de cambriolage dans une habitation de Point-d'Imier, c'était la nuit dernière, aux alentours d'une heure du matin. Le résident a été surpris par des bruits, a découvert des individus entrés par effraction dans son domicile. Ils ont pris la fuite, mais ont utilisé du gaz lacrymogène à l'encontre du propriétaire des lieux, qui tentait de les stopper. Et puis un feu de brousse éteint hier soir à Tontouta, une trentaine d'hectares de végétation a tout de même brûlé. L'incendie s'était déclaré aux environs de 16h derrière la station Shell. Un dispositif a été très vite déployé, des pompiers de Païta et de Tontouta, ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau. Le sinistre a été éteint vers 19h. Ce matin, aucune reprise de flamme n'a été constatée. Et puis, des incendies également en Australie, où l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 18 régions de l'état du Victoria, qui sont donc touchées par d'importants feux de forêt. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les autorités du Victoria disent être sans nouvelles de 3 personnes, dont un enfant, aperçues vivantes pour la dernière fois hier après-midi devant leur maison, qui a ensuite été détruite par les flammes. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles sont mortes, a toutefois tenu à préciser un responsable local des services de lutte contre le feu. Selon des estimations établies la nuit dernière, les incendies qui ravagent le Victoria y ont déjà détruit plus de 85 000 hectares de végétation, de même que des dizaines de maisons. 50 feux d'intensité majeure y sont combattus par environ 700 pompiers volontaires, appuyés par des moyens terrestres et aériens. À titre de comparaison, les incendies de l'été noir de 2019-2020 avaient calciné 1 500 000 hectares de végétation, détruit plus de 300 maisons et coûté la vie à 5 personnes. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi et 8 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. La suite de votre journal, c'est avec Lionel Sabour.
Deux motions de censure déposées ces dernières heures, l'une par le Rassemblement national, la seconde par les Insoumis. Cela fait suite au feu vert de l'Union européenne au Mercosur contre l'avis de la France. Une chute du gouvernement semble très probable à l'issue des débats budgétaires qui ont repris à l'Assemblée nationale. Mais l'exécutif va plus loin et prend ses menaces de censure très au sérieux et prépare déjà les esprits à une nouvelle dissolution. Alexis de la Fontaine. Pour Europe 1.
Dans une lettre, Sébastien Lecornu demande à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, de préparer d'éventuelles élections législatives le 15 et 22 mars prochain, soit le même jour que les élections municipales. Emmanuel Macron voudrait éviter cette hypothèse à tout prix, mais le gouvernement pourrait bien être renversé dans les prochaines semaines. Le premier risque, c'est le Mercosur. Le Rassemblement national et la France insoumise ont annoncé déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu après la signature du traité. Si les socialistes décide de soutenir cette motion, le Premier ministre sera renversé. Le deuxième risque, c'est le budget. Sébastien Lecornu devrait déclencher le 49-3 dans les jours à venir, avec en réponse une nouvelle motion de censure. Là encore, ce seront les socialistes qui feront pencher la balance. Et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec Olivier Faure. Alors, cette menace de dissolution vient surtout mettre la pression sur le Parti socialiste, en grande difficulté dans les sondages.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Les deux motions de censure ont donc été déposées après le feu vert de l'Union européenne, je le disais, au traité du Mercosur lors d'un vote à Bruxelles. Un revers attendu, mais néanmoins très violent pour les agriculteurs mobilisés dans l'Hexagone depuis plusieurs mois contre cet accord de libre-échange. Sur le pont de l'Europe, c'est à Strasbourg, la coordination rurale organisait un blocage en forme en fait de baroud d'honneur. Mélina Fachin pour Europe 1.
On savait que ça allait venir.
Même si ce n'est pas une surprise, la validation de l'accord du Mercosur est un coup dur pour la cinquantaine d'agriculteurs de la coordination rurale réunis ici. Alexandra, qui gère une ferme pédagogique, est très émue.
Je suis triste, très triste vraiment, déçue. Je suis abattue depuis que j'ai appris ça tout à l'heure, officiellement on va dire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, hein. C'est désespérant.
Et peu importe que la France ait voté non, on n'est pas dupes, disent tous les agriculteurs interrogés, comme Jean, céréalier.
Ça ressemble bien à notre président. Il s'assure que les dés soient lancés là, pour donner un avis qui peut essayer de nous faire un peu plaisir. Mais on sait très bien que finalement il est pour. Puis, bon, non, on a cerné le personnage. C'est pour ça qu'on ne croit plus en nos politiques non plus. Là. C'est en grande partie à cause de lui. Là.
Rejoint par une vingtaine de tracteurs allemands, les agriculteurs aussi entre découragement et détermination à poursuivre le combat. Parce qu'au-delà du Mercosur, la dermatose nodulaire attise encore toutes les colères. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et j'ajoute qu'après le feu vert des 27, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va s'envoler vraisemblablement le 17 janvier prochain pour le Paraguay afin de signer ce fameux traité. Très controversé. L'actualité à l'étranger, une minute de silence, puis le tintement des cloches dans toute la Suisse. Hommage aux victimes du terrible incendie d'un bar à Crans-Montana la nuit du Nouvel An. Ce vendredi était jour de deuil national en mémoire des 40 morts et 116 blessés. Une cérémonie officielle était organisée dans une salle de spectacle de la ville de Martigny. C'est à une cinquantaine de kilomètres de Crans-Montana. Cérémonie avec des prises de parole forcément très émouvantes.
Depuis cette nuit du 1er janvier, il ne s'est pas passé un seul instant, pas une seule minute, sans que nous ne pensions à vous. La moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de présenter des excuses de toute la communauté.
Les images qui nous font face sont insoutenables. Les cris stridents résonnent dans le froid glacial. C'est une scène apocalyptique. Alors aujourd'hui, nous rendons hommage à vous qui êtes partis trop tôt, à vos rêves interrompus. Faisons en sorte que cette douleur ne soit pas vaine. N'attendons plus pour dire à nos proches qu'on les aime. Vivons intensément, ici et maintenant.
Et c'est en ce jour de deuil national en Suisse que les deux propriétaires du bar Le Constellation étaient convoqués par la justice helvète. À l'issue de cette audition, le couple de Français n'est pas ressorti uni. La femme, Jessica Moretti, a été laissée en liberté. Le mari, lui, Jacques Moretti, a été placé en détention préventive. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Jacques Moretti est suspecté de ne pas avoir respecté les normes de sécurité dans son bar, s'agissant notamment du nombre d'issues de secours, des portes bloquées aux condamnés et qui n'ont pas permis une évacuation rapide. La justice reproche aussi au gérant de ne pas avoir installé assez d'extincteurs. La capacité d'accueil n'a pas non plus été respectée. L'établissement peut accueillir maximum 200 personnes. Or, il y en avait pourtant 400 le soir du réveillon. Alors, pour s'y faire reprocher, le patron encourt jusqu'à 4 ans et demi de prison. Lui qui a déjà eu affaire à la justice mais cette fois-ci en France. En 2008, le gérant du bar avait été condamné à 2 ans de prison pour incitation à la prostitution pour avoir recruté puis envoyé des jeunes femmes dans un salon de massage à Genève. 2 ans plus tard, c'est le tribunal de Bastia qui le condamne après une fraude à la TVA. Jacques Moretti, interdit de gérer une société en France, est ainsi retrouvé en Suisse, où là aussi sa gestion des affaires interroge. Il menait un train de vie luxueux alors que son bar n'était pas très fréquenté. Des éléments que tente actuellement d'éclaircir la justice.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité également, la première ministre italienne Giorgia Meloni qui lance un appel à ses partenaires européens. Le moment est venu pour l'Europe de parler aussi avec la Russie, a déclaré Giorgia Meloni il y a quelques heures. Déclaration après une nouvelle série de frappes russes sur des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Cible située à l'ouest du pays et atteint par un missile hypersonique russe. Engin totalement inarrêtable pour l'armée ukrainienne, comme l'explique le spécialiste des questions de défense, Xavier Tittleman.
L'Oreshnik, à la base, c'est une déclinaison d'un missile balistique nucléaire russe, c'est-à-dire qu'ils ont repris un vieux missile nucléaire des années 60-70, ils l'ont adapté pour en faire un missile tactique. C'est des missiles qui vont monter à plus de 100 km d'altitude et surtout qui vont redescendre à plus de 10 000 km/h. C'est pas une arme qui est particulièrement dévastatrice, sauf si évidemment ils mettaient une arme nucléaire à bord, mais ça pour l'instant c'est pas quelque chose qui est envisagé. La principale difficulté, c'est que c'est un missile qui nécessite des systèmes d'interception qui sont hors de portée, parce qu'avoir des missiles qui puissent aller intercepter ces systèmes dans l'espace avant qu'ils redescendent, ça existe. Les Israéliens en ont avec le Arrow 2, les Américains en ont avec le SM-3, mais ça, on ne l'a pas fourni à l'Ukraine parce que c'est des systèmes qui sont beaucoup plus rares et donc beaucoup plus chers également.
Et après cette série de frappes russes qui a fait au moins 4 morts et 26 blessés, la moitié des immeubles résidentiels de Kiev est privée de chauffage. Le maire de la capitale ukrainienne qui appelle même les habitants à quitter temporairement la ville. Des manifestations pour le 13e jour de suite dans plusieurs villes d'Iran. Le peuple continue de descendre dans les rues pour réclamer le départ du régime des mollahs, et ce, malgré la répression. On compte plus de 50 morts depuis le début du mouvement, selon une ONG. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne condamnent fermement le meurtre de manifestants. Il faut dire que ces dernières heures, la violence semble avoir gagné en intensité. Les gardiens de la Révolution, c'est le bras armé de la République islamiste, auraient tiré dans la foule. Herbot de Ganajar est avocat et président de l'association Noroche pour une nouvelle ère en Iran.
On nous dit que la rue est transformée en champ de bataille, que les tanks sont de sortie et qu'on se prépare à aller sur une sorte de loi martiale. Et des hospitaliers nous ont rapporté qu'il n'y aurait eu que sur la ville de Mashhad au moins 200 morts.
Et j'ajoute que l'ayatollah Khamenei qui assure que le régime ne reculera pas face aux manifestants. Ce matin, le fils de l'ancien Shah d'Iran, le prince Reza Pahlavi, a exhorté Donald Trump d'intervenir afin, et je cite, d'aider le peuple iranien. Il est midi et 18 minutes, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Le jeu McFamily Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes McFamily et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Jusqu'au 6 février, gagnez un séjour enchanteur à l'hôtel Coulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. L'hôtel Coulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre idyllique en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 6 février à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Midi 18 sur Radio Rythme Bleu, l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
Et on va commencer avec le sport en Calédonie et du tennis. C'est la grande finale des internationaux de Nouméa qui est prévue cet après-midi sur les cours du Wenetoro Mikael Juneski.
Le verdict attendu sur ce BNC Tennis Open et le jeune métropolitain Arthur Géa, 21 ans, actuellement 241e à l'ATP, qui a réussi à s'imposer hier soir contre l'américain Michael Zeng, 4-6, 6-1, 6-4. Il fera face pour sa première finale d'un challenger en carrière à la tête de série numéro 5 de ces internationaux de Nouvelle-Calédonie, l'Autrichien Yuris Rodionov. Ce dernier l'a emporté hier soir contre l'Australien Blake Ellis, 6-4, 7-6, 6-3. Rodionov qui figure actuellement au 195e rang mondial. Il a déjà intégré le top 100 du circuit ATP en 2024. Finale entre Arthur Géa et Yuris Rodionov prévue à partir de 16h30 aujourd'hui sur le court Wanaruen Godrella du Wentoro. Hier soir, dans le tableau en double, c'est le duo japonais Kusuhara Nakagawa qui a remporté la finale face aux Australiens Jake Delaney et Callum Petergill, 7-5, 6-3.
Et toujours sur le territoire, Michael, l'haltérophilie qui donne déjà rendez-vous aux pratiquants ce samedi avec la Coupe de Dimbéa.
Première compétition de l'année pour la discipline, dès le mois de janvier donc, avec 26 athlètes en lice à l'Halal Michel Castex. Décor sur mesure pour cet événement qui permet de lancer 2026 sur un bon rythme. Justine Guillaumard est secrétaire du Barbel Club de Dimbéa qui organise ce rendez-vous.
Les grandes vacances scolaires, c'est aussi l'occasion de se réunir pour des belles compétitions, donc pas de repos pour les braves. C'est vrai que déjà pour lutter contre l'oisiveté, il y a eu des stages vacances dans les différents clubs d'haltérophilie là pendant les grandes vacances. Ils ont quand même pu s'entraîner avec leur coach et puis entre eux. Cette compétition, ça leur permet de tester leur évolution, leur progression sur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de partenaires sur cette édition, donc on les remercie tous chaleureusement pour notamment les lots qu'ils ont attribués pour tous les athlètes. Donc là, exceptionnellement, tous nos athlètes, donc nos 26 athlètes, seront récompensés avec des petits cadeaux, donc c'est vraiment une première. Et on remercie tout particulièrement bien sûr la ville de Dimbéa qui nous a mis à disposition la Halle Michel Castex toute cette journée.
Une belle participation notamment aujourd'hui de la jeunesse avec une quinzaine d'engagés entre les moins de 10 ans, moins de 13 ans et les juniors. Certains ont en effet déjà des objectifs en vue.
Moi je m'appelle Warren, ma catégorie c'est moins de 65, j'ai 13 ans pour améliorer nos pairs, tout ça. Et devenir plus fort. En plus, en avril, j'ai une compète aux Océaniens à Samoa. Pour moi, le but, c'est plus de tirer des barres lourdes pour être le podium, être premier, tout ça.
Je m'appelle Dimitri, je suis dans la catégorie à moins 90 kilos. J'ai 13 ans. C'est important pour pas se relâcher. Et c'est bien aussi de faire les compétitions pour apprendre de ses erreurs. Parce que ici, on n'est pas là pour gagner. On est là pour participer ici.
Moi, je m'appelle Sako Mathis. Et je suis en plus de 110 kilos. Moi j'ai 15 ans. Ça permet de garder la forme surtout. Et surtout que là on prépare un stage la semaine prochaine à Samoa. Ça permet de voir notre niveau avant d'y aller quoi. Et de voir notre niveau après le stage. On prépare déjà le championnat des Océaniens. Et aussi pour moi peut-être les championnats de France encore. J'espère si jamais je fais du bon travail faire les championnats d'Europe.
Ils sont aujourd'hui 9 engagés chez les juniors. Avec les Océaniens qui approchent à grands pas, on compte aussi 11 athlètes pour s'affronter chez les seniors hommes et femmes.
Venons-en à la scène nationale et internationale. On commence avec le football, Mickaël, et on connaît déjà les premières affiches des demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.
Et le pays hôte du tournoi, le Maroc, n'est plus qu'à 2 matchs du sacre continental qu'il espère. Les Marocains se sont imposés aujourd'hui face au Cameroun sur le score de 2-0. Ils croiseront le fer au prochain tour avec le vainqueur du duel entre l'Algérie de Lucas Zidane et le Nigeria. Rencontre à suivre dès 3h demain matin. De son côté, le Sénégal s'est imposé sur la plus petite des marques face au Mali, 1-0. Les Sénégalais seront pour leur part opposés aux gagnants de la rencontre Égypte-Côte d'Ivoire. Rencontre entre les pharaons égyptiens de Mohamed Salah et les éléphants ivoiriens tenants du titre à suivre demain à partir de 6h.
Le rugby avec la Champions Cup et l'équipe de Castres qui s'est inclinée face aux Anglais de Bath pour le compte de la 3e journée de compétition.
Un lourd de défaite qui plus est à domicile pour les Castres. 43-20. Ils ont vu le club anglais de Finn Russell prendre le large en deuxième période. Castres qui a tout simplement subi la loi de Bath pour encaisser une deuxième défaite dans la compétition et laisser les Britanniques prendre de l'avance en tête de la poule 2. Ce soir, l'AS Clermont accueille à Glasgow pour le compte de la poule 1. Le Stade Rochelais croisera le fer avec les Anglais de Leinster pour le compte de la poule 3, alors que l'Aviron Bayonnais ira défier Leicester dans la poule 4. La section paloise sera en déplacement chez les Gallois des Yannick Jenny Scarletts.
Et puis le sport mécanique, Mickaël, avec de belles sensations sur le Dakar 2026. Juste avant la journée de repos, deux prétendants au titre de la catégorie auto se sont illustrés.
Et une victoire sur la 6e étape de Nasser Al-Attiyah. Une étape longue de 915 km jusqu'à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Le Qatari qui a fait coup double en prenant la tête du classement général juste avant donc cette journée de repos. Et il a devancé le Français Sébastien Loeb, deuxième du jour, désormais sixième au général, après une solide journée au volant de sa Dacia.
On s'est vraiment fait plaisir aujourd'hui. Je ne me rappelais plus à quelle vitesse on pouvait aller dans les dunes avec ces voitures-là, mais c'est juste incroyable. On a vraiment bien attaqué toute la spéciale. Je pense que on s'est fait plaisir, on s'est fait un peu mal. Hein. On a perdu quelques centimètres aujourd'hui, hein, parce que quand on attaque fort dans les dunes, on se fait bien secouer. Bon, malheureusement, on a décoincé un coup sur un pneu dans un appui, on a dû changer de roue. Mais sinon, belle journée.
Et dans la catégorie moto, Ricky Brabec sur Honda s'est imposé lors de cette sixième journée d'épreuve, après la pénalité infligée à l'Australien Daniel Sanders, qui avait franchi la ligne d'arrivée en premier au guidon de sa KTM, mais qui a dépassé la vitesse autorisée dans une zone limitée. En tête du classement général, Sanders ne compte plus que 45 petites secondes d'avance sur Brabec.
Merci Mickaël, il est midi et 25 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, il sera disponible d'ici quelques instants. Réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Passez une très belle après-midi sur Radio Rythme Bleu. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Lionel. Et merci pour ce beau journal. Et merci aussi à Mickaël.